Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique, le débat cette semaine depuis le Palais Brongniart. Le Palais Brongniart, un lieu bien connu des financiers de la place de Paris, puisqu'il accueillait jusqu'à il y a quelques années la Bourse de Paris. Nous sommes ainsi place de la Bourse pour parler de l'Europe, des États-Unis et de la Méditerranée. Pour un géopolitique organisé en partenariat avec le Forum de Paris pour son 6e colloque international, placé sur le thème des orientations de la nouvelle administration américaine dans l'espace méditerranéen. Des orientations déjà visibles, d'autres moins. Nous ferons le point et évoqueront la position des euro-méditerranéens face aux défis américains. La donne régionale est sans cesse en mouvement, qu'il s'agisse du retrait américain d'Irak décidé par l'administration Obama, de la main tendue du nouvel occupant de la Maison-Blanche au monde musulman et sa volonté affichée de trouver une issue au conflit israélo-arabe, de la réintégration de la Syrie dans le jeu diplomatique des puissances occidentales. Voilà autant d'éléments parmi d'autres qui semblent aller dans le sens d'une régulation possible et d'une perspective d'apaisement. Mais d'autres signes nombreux également viennent contredire l'hypothèse d'une amélioration globale de la situation. Le refus du Premier ministre israélien de tout arrêt de la colonisation ou de toute mention d'un État palestinien, le bras de fer nucléaire entre Téhéran et la communauté internationale, la reprise en main politique en Iran après les mouvements populaires qui ont suivi la réélection contestée du président Ahmadinejad en juin dernier. Entre avancée et retour en arrière, quelle tendance d'ensemble peut-on déceler? Les pays de la région sont-ils prêts à prendre leur destin en main? Nos invités, Stephen Erlanger, chef du bureau du New York Times à Paris. Bonjour Stephen Erlanger.
Bonjour madame.
Dominique Moisy, conseiller spécial à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Dominique Moisy.
Bonjour.
Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran. Bonjour Bernard Ourcade.
Bonjour.
Et Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. En Méditerranée comme ailleurs, l'élection de Barack Obama a constitué un événement majeur, porteur de beaucoup d'espoir après les années Bush particulièrement mal ressenties dans la région. Il y a presque un an, le chef de la Maison-Blanche prononçait un discours au Caire, en Égypte, un discours d'ouverture au monde musulman. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une partie de bras de fer particulièrement tendue entre Israël et les États-Unis et un durcissement de la position de l'Iran sur le nucléaire. Y a-t-il une relation de cause à effet? Le débat est ouvert. Dominique Moisy.
Bon, je crois d'abord qu'il faut revenir sur le discours du Caire, qui est un grand moment dans l'histoire de la diplomatie américaine. Jamais, je crois, l'Amérique ne s'est adressée à l'autre avec autant de soucis de respecter la dignité de l'autre, autant d'empathie, autant de volonté de traiter l'autre comme un égal. Et sur ce plan, il y a un avant et un après discours du Caire. Ayant dit cela, il y a un contraste considérable, près d'un an après, entre la grandeur de ce discours et la petitesse des résultats qui ont suivi. Alors, il n'y a pas si longtemps, on mettait en avant le décalage qui pouvait exister entre les discours de Barack Obama sur la réforme du système de santé et son incapacité à faire bouger les choses. Il a fait bouger les choses. Il a montré que derrière le verbe, il pouvait y avoir l'action. Et toute la question au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est de savoir si le sort du discours du Caire est plus près des discours d'Obama sur la réforme de la santé, ou s'il y a un décalage total entre la capacité de Barack Obama de convaincre les Américains et celle de Barack Obama de convaincre les habitants des rives de la Méditerranée de suivre la grandeur et la noblesse de son message. Pour le moment, le décalage entre l'action sur le terrain et le verbe n'a jamais été plus grand.
Bernard Ourcade.
Je souscris tout à fait à ce que dit Dominique Moisy, mais j'en tire une version plus positive. Quand on prend le discours du président Obama concernant le healthcare, les problèmes de santé, dans les semaines qui ont précédé le vote, l'opposition était gigantesque. On a dit jamais il ne réussira. Il a suscité une révolte à l'intérieur des États-Unis. Et je crois que le discours du Caire, qui a été précédé par un discours du Nouvel An iranien aux Iraniens, un honneur exceptionnel fait à une population, ce discours a été extrêmement efficace et d'un succès qui est exceptionnel, puisque dans les deux mois qui ont suivi, Nous avons vu à Téhéran les manifestations exceptionnelles de la population, les plus importantes depuis 30 ans. Autrement dit, le discours du président américain a eu une efficacité gigantesque en donnant un coup de pied dans la fourmilière politique iranienne, en provoquant des dissensions profondes au cœur même du système politique. Jamais un discours n'a été aussi efficace. Évidemment, quand vous provoquez un changement de politique après 40 ans de blocage, ça suscite logiquement des réactions. Et donc le blocage que l'on semble voir en Iran sur le nucléaire est la réaction normale d'un groupe social ou politique qui est confronté à un discours tout à fait nouveau, imprévu. Le président Obama a détruit un des piliers fondamentaux de la révolution islamique qui était l'opposition aux États-Unis. Il dit « Je ne suis plus votre ennemi ». Ça panique complètement la classe politique iranienne, qu'ils soient pro-américaine ou anti-américaine. Et sur le nucléaire, c'est la même chose. Les États-Unis et l'Iran ont négocié un accord sur le nucléaire l'été dernier. Ça aboutit à un accord à Vienne le 7 octobre dernier. Et quand le président iranien revient à Téhéran, cet accord n'est pas évidemment accepté par les plus réactionnaires, dirons-nous, du système iranien, ce qui est normal. On ne peut pas avoir un succès dans un match de boxe. Ce n'est pas les deux premiers coups de poing qui comptent. Le match de boxe est en 10 rounds. Il faut attendre le 10e round, peut-être.
Dominique, moi, si vous vouliez réagir.
Juste un point. Est-ce que le discours d'Obama est réellement la cause de ce qui se produit en Iran quelques semaines après, ou n'est-il qu'un phénomène d'accélérateur de l'histoire? Au fond, le sentiment d'humiliation d'une grande partie de la population iranienne par rapport à son régime est cristallisé, amplifié, accéléré par le discours du Caire, mais le discours du Caire ne crée pas ce phénomène d'aliénation.
Bernard Orcade, oui.
Je suis entièrement d'accord. Le discours ne génère pas un rapport de force. Le rapport de force existe et a été construit pour ce qui concerne l'Iran par des années. En Palestine, en Israël, c'est pareil. Mais quelquefois, le génie d'un homme politique, c'est de créer un événement, de créer l'étincelle qui déclenche justement un phénomène qui était sous-jacent.
Alors, entre le discours et la stratégie, je me tourne vers vous, Stephen Erlanger. Que sait-on de la stratégie américaine dans la région proche, Moyen-Orient?
Franchement, la stratégie change maintenant, parce que le premier rang, cette stratégie de réconciliation, de dignité, c'est le mot important. Obama a parlé aux Arabes, au monde arabe et au monde farsi, iranien, d'égalité, de réconciliation, d'effort d'attirer dans le monde de grand pouvoir et de responsabilité. C'est la même avec Chine. Il y a plusieurs des erreurs aussi. Le discours à Caire, c'était très, très, très important. Mais c'est une grande erreur de ne pas aller immédiatement à Jérusalem et donner un autre discours. En même temps, pour les Israéliens, Obama n'a pas visité Israël dans son premier an. C'est une grande erreur. Et maintenant, c'est une sorte de confrontation avec Israël quand les Arabes attendent. Et c'est très difficile à gagner cette confrontation, franchement. Parce que c'est très difficile pour aucun Israélien pour arrêter en public la construction d'un Jérusalem de l'Est. C'est le mauvais champ de bataille, à mon avis.
Dominique Moïsi, Barack Obama a fait une erreur en ne se rendant pas à Jérusalem et en ne cherchant pas d'entrée de jeu à prendre toute sa place dans ce conflit.
Je crois qu'il a adopté une approche indirect. Si vous relisez le discours du Caire, il y a un moment où il dit « Je vais demain en Europe voir les camps de concentration, la raison de l'existence de l'État d'Israël à côté de vous ». Donc au moment où il dit au monde arabe « Je vous comprends, je célèbre votre grandeur passée et votre contribution future », il leur dit également et il dit au peuple juif « Ma position reste équilibrée. Je vais rendre hommage aux souffrances du peuple juif dans l'Europe d'hier. » Et il le dit au Caire, ce qui est très important, pour dire au monde arabe « Vous devez intégrer l'histoire du peuple juif. Israël doit transcender sa douleur. Vous devez intégrer sa souffrance. » Donc, dire qu'il n'a rien fait est exagéré. Mais il l'a fait de manière symbolique et indirect, avec l'idée que ce qu'il devait rétablir, c'était la confiance des États-Unis dans le monde arabo-musulman. qu'ils n'avaient pas à faire le même pas à l'égard d'Israël. La confiance d'Israël dans l'Amérique était évidente. Alors, aurait-il dû, dès le départ, dire aux Israéliens, écoutez, maintenant ça suffit, je suis votre ami, mais parce que je suis votre ami, je vous dis que vous allez dans un mur. Vous faites partie de ma famille sur le plan occidental, et j'ai le devoir de vous dire que vous êtes en train de vous suicider, que vous êtes en train d'aliéner par votre action et votre comportement les sympathies précisément liées à l'histoire que je vais commémorer demain. Je comprends tout à fait ce que dit Steve Erlanger, mais je serais un peu moins sévère avec Obama sur ce point qu'il ne l'a été.
Bernard Orcan.
Oui, je crois que le président Obama a été confronté à la réalité des faits, notamment au poids de ses amis et de sa famille, en quelque sorte politique, et de la politique intérieure américaine. Pour mettre en place une telle révolution, en quelque sorte internationale, avec une nouvelle approche du Moyen-Orient notamment, le président Obama a cru peut-être que un beau discours suffirait à faire bouger les lignes, quelques symboles importants suffiraient. Or, la question, on l'a vu, ça a été de gérer les problèmes intérieurs, ça a été d'être confronté à justement la révolte ou l'interrogation des amis, des Israéliens. Et donc, paradoxalement, cette nouvelle politique américaine, on peut se demander si le plus gros du défi, du travail, n'est pas à faire en interne, avec les amis, avec les Européens. On sait très bien que la politique américaine et européenne n'est pas tout à fait en phase sur bien des sujets sur le Moyen-Orient. Et donc, la nécessité de conforter les alliés, de trouver avec ses amis, avec la population américaine, une façon d'avancer en commun, c'est peut-être là, paradoxalement, le plus grand défi. Je m'occupe de mes amis et mes ennemis, je m'en charge.
Alors, il est reproché tout de même au président Obama son manque de fermeté, la question de sanctions pour imposer la vision américaine des choses à l'encontre d'Israël. Il n'en est pas question. Alors, est-ce qu'on peut parler de politique de mesure avec ce qui se passe avec l'Iran, Monsieur Langer?
Oui, il y a un grand problème avec l'Iran aussi, parce que à ce moment, à Washington, il y a une grande ambivalence parce qu'il reste le politique de la main ouverte, mais apparaît sans résultat. Et Iran pousse tout le temps. Et l'Occident apparaît très faible, très divisé. Et en Iran, il y a bien sûr des questions si c'est possible à pousser plus ou c'est dangereux. Mais maintenant, il n'y a aucune raison à arrêter pour l'Iran. C'est un grand problème. Et les Français voudraient agir un peu plus puissant vers l'Iran. Et Washington a dit non. Parce que cette ambivalence, c'est très difficile. Et je sentis une sorte de change maintenant. Parce que l'attitude de Hillary Clinton, c'est un peu plus forte et elle commence à gagner cet argument.
Dominique Moisy, quel risque courent les États-Unis en ne parvenant pas pour l'instant à s'imposer davantage? Apparemment, la situation actuelle exige une diplomatie innovante. Quelles sont les pistes possibles?
Mais je crois qu'il y a deux dossiers qui sont clairement distincts. Il y a le dossier iranien et le dossier israélo-palestinien. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a la tentation de reprocher à l'Amérique de ne pas en faire assez, de ne pas être assez ferme. Mais les deux questions sont quand même très différentes. D'un côté, vous avez un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire, et dont le président fait des discours incendiaires pour prédire la disparition de cette terre, d'un des membres de l'Organisation des Nations Unies, l'État d'Israël. De l'autre, vous avez un État qui continue la politique de colonisation, dont le gouvernement se droitise et qui semble ignorer les reproches de ses alliés les plus proches. Alors, la marge d'action de l'Amérique vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de l'Iran est très différente. Et ce que l'on reproche surtout, me semble-t-il, aux États-Unis, c'est de ne pas avoir tapé du poing sur la table et de ne pas avoir utilisé la politique intérieure israélienne comme Netanyahou avait utilisé la politique intérieure américaine.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de chantage, de partie de bras de fer, où les deux dirigeants se sont regardés les yeux dans les yeux pendant l'année 2009. Et cette première partie de bras de fer en 2009, elle a été incontestablement remportée par Benjamin Netanyahou, même si on peut penser qu'il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus.
Vous parlez de l'opération israélienne à Gaza pendant la vacance de pouvoir à Washington.
Je parle de ce qui suit l'élection de Barack Obama et de l'utilisation quasiment explicite par la politique israélienne de la question de la réforme de santé en disant tu ne vas pas oser exercer des sanctions sur moi tant que ton plan de réforme de la santé n'a pas été voté. Bah, maintenant il est voté et cet argument se retourne contre Netanyahou et c'est à Obama de le regarder dans les yeux et de lui dire est-ce que tu peux prendre le risque de créer la première vraie coupure entre Israël et son partenaire stratégique vital, les États-Unis. Et là, on voit bien qu'une grande partie de la population israélienne ne suivrait pas Netanyahou dans cette partie de bras de fer et ne comprendrait pas l'isolement d'Israël par rapport non pas à l'Europe, mais par rapport aux États-Unis. Donc la balle, me semble-t-il, est dans le camp de Barack Obama. Il est libre aujourd'hui de l'utiliser, puisque cette réforme est derrière lui. Va-t-il le faire? C'est toute la question.
Steven Erlanger, vous avez un avis sur ce que vient de dire Dominique Moïsi?
Il y a la première fois peut-être une coupure potentielle dans 20 ans. Dans la période de James Baker, il y a aussi une autre coupure et c'était efficace. Mais c'était un différent Israël et un différent monde palestinien, bien sûr. Parce que un grand problème aussi est le monde palestinien, c'est une guerre civile, c'est divisé. C'est le West Bank et Gaza, c'est deux États différents. De mentalités différentes. Et Hamas est fort dans le West Bank aussi, mais supprimé. C'est un monde difficile. Et Abu Mazen, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, mais plus important, le chairman de PLO, il est très faible maintenant. Très, très faible. Et il est devenu plus faible parce que les policiers de Barack Obama, en confrontation avec Israël sur la question de Jérusalem d'Est, parce que ce n'est pas un grand bout pour les Palestiniens jusqu'à Obama a dit. Et maintenant, c'est impossible à retraite pour les Palestiniens. C'est un grand problème. C'est faire le commencement de négociations maintenant. C'est très difficile maintenant.
Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui à l'Europe, les États-Unis et la Méditerranée en partenariat avec le Forum de Paris organisé ce week-end au Palais Brongniart à Paris. Nous retrouvons nos invités Dominique Moïsi, Bernard Ourcade et Steven Erlanger dans quelques instants. À tout de suite.